Donc, chapitre 3, expliquer et comprendre. Lorsqu'on a affaire aux sciences de la nature, d'une certaine façon, on peut considérer qu'on est dans l'horizontalité, la platitude de l'espace de la représentation. Il y a le monde et il y a la représentation du monde. Bien entendu, quantité de problèmes philosophiques peuvent se construire là-dessus. En particulier sur les rapports de la représentation et du monde, la réalité, je veux dire, le fait qu'il y ait une contrepartie réelle à certains des concepts que nous construisons pour nous représenter les phénomènes que nous observons dans la réalité. Le problème des sciences humaines tient au fait que nous devons introduire tout à fait autre chose. Nous avons affaire, certes, à des phénomènes objectifs, des échanges linguistiques, des comportements sociaux, juridiques, moraux, etc. Mais les décrire comme ça abstraitement, bon, ça a parfois un sens, notamment lorsqu'il s'agit de constituer une représentation de leur structure et des grands équilibres des éléments de cette structure. Ceci dit, ça ne suffit pas. Quand je suis en face d'un comportement humain, bien souvent, pour expliquer ce qui se passe, je recours à autre chose. Déjà, Aristote remarquait que lorsque je vais expliquer, par exemple, pourquoi Socrate se promène, je suis dans l'obligation de dire ben, c'est pour sa santé. Autrement dit, nous recourons à un élément interne à la constitution du sujet, qui est une intention. Et bien souvent, lorsque je me contente dans le monde quotidien de dire pourquoi tel ou tel a fait ceci ou cela, j'exprime ce qu'il a voulu faire. Autrement dit, je construis entre le monde et ma représentation une représentation des sujets qui agissent, et dans les sujets, j'imagine, je théorise le fait qu'il se passe des processus qui ont affaire avec ces comportements et qui servent à leur explication. Autrement dit, si dans les sciences de la nature, j'ai finalement le monde et la représentation, des relations complexes qui font l'objet de discussions philosophiques, dans le cas des sciences humaines, j'ai effectivement le monde, la représentation scientifique, mais je dois supposer un troisième terme qui est constitué de sujets insérés dans le monde. Ce sont des parties du monde, hein, nous sommes des parties du monde, mais qui ont une constitution spécifique, un corps propre, une machinerie intellectuelle à laquelle ils ont partiellement accès. Et du coup, on peut imaginer que le fonctionnement de cette machinerie intellectuelle, ce qu'on appelle l'esprit, grossièrement, eh bien, joue un rôle dans les explications que nous construisons dans les sciences humaines. Dès le départ, c'est ainsi qu'on a construit la représentation de l'activité rationnelle du sujet, qui réfléchit, se présente des situations, délibère et agit. Les modèles sont souvent aujourd'hui beaucoup plus compliqués. Elles font appel à des éléments mathématiques. Par exemple, on peut imaginer qu'il y ait une structuration de nos capacités linguistiques, mais aussi qu'il y a d'autres modèles qui concernent la théorie des choix rationnels et des instruments comme la théorie des jeux. Dès lors, on voit bien que cette spécificité des sciences humaines correspond à l'introduction d'un terme qui est assez énigmatique et auquel nous donnons le nom de signification, de sens. Alors, il serait effectivement extrêmement simpliste de penser que signification et sens ont simplement affaire avec la subjectivité, avec le fait qu'il y ait de la conscience et que la conscience soit la source de tout. C'est la théorie philosophique classique que nous verrons ressurgir avec Sartre dans un tout autre contexte. Mais disons que si nous voulons appréhender la notion de signification, le plus simple est de partir du langage. Le langage, ce n'est pas simplement un phénomène physique ou corporel qu'on pourrait décrire à l'aide d'une phonétique articulatoire ou d'une théorie des sons physiques. Le langage, c'est le fait même que cela signifie que nous transmettons quelque chose. Alors quoi? Le modèle classique pense que, effectivement, notre esprit est composé d'idées et que ce sont ces idées qui sont signifiées par les mots et qui éveillent, lorsque nous parlons, des idées analogues, sinon identiques, chez nos interlocuteurs. La signification, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si simple que cela. Considérons qu'en fait, c'est un ensemble de relations. C'est un ensemble de relations, et ces relations sont, je crois, distribuées en deux paquets extrêmement distincts. Il y a d'abord la relation à d'autres signes. Je veux dire, par exemple, que si vous voulez expliquer ce que signifie un mot, vous allez donner des définitions, c'est-à-dire utiliser d'autres mots. Vous allez les opposer à leurs synonymes, à leurs antonymes, etc. C'est ce qui concerne traditionnellement ce que nous appelons le sens. Mais, bien entendu, si on en reste là, on en reste dans l'intériorité et il n'y a pas véritablement de signification. Il n'y a de signification que lorsque les signes que nous utilisons sont rapportés au monde. Et du coup, nous avons un autre paquet de relations qu'on peut appeler globalement la référence, la désignation, et qui servent à identifier ce dont nous parlons. Je veux dire par là que si nous différons d'un ordinateur, c'est parce que notre corporéité insérée dans le monde rattache les éléments de notre langage à justement des éléments du monde qui participent à la signification. Je veux dire que la façon dont nous avons de référer à ceci ou cela constitue la signification des signes qui réfèrent à ceci ou cela. De lors, nous pouvons considérer qu'il y a introduction dans le système des sciences d'une complexité que nous pouvons observer à partir des propositions élémentaires qui constituent chacune de ces sciences ou qui sont entremêlées dans chacune de ces sciences. Ça correspond, je crois, à ce que nous pouvons reporter sur un tétraèdre, donc un élément volume avec quatre sommets. Ces quatre sommets étant un type extrêmement particulier de proposition. Nous avons, premier type de proposition, que j'appelle le théorème. Le théorème, c'est quoi? C'est une proposition du genre P ou non P. Et je reste dans un certain type de raisonnement, dans un certain type de construction de la validité de ma proposition. Je veux dire que le théorème, j'ai besoin d'enchaîner d'autres éléments linguistiques pour discuter de sa validité. Je n'ai absolument pas besoin de recourir à quoi que ce soit d'extérieur. C'est le cas de la logique, c'est le cas des mathématiques. Et au demeurant, c'est de cette propriété que les philosophes avaient déduit les caractéristiques d'un certain type de vérité qu'ils appelaient les vérités de raison ou encore les vérités analytiques. Avec cette idée que puisqu'il n'y avait pas besoin de recourir au monde, à l'expérience, à l'empirie, pour discuter de la validité du théorème, le théorème était a priori. Bon, je reviendrai sur cette distinction entre vérité de fait et d'autres types de vérité, la vérité de raison, sur la distinction entre le synthétique et l'analytique, à propos justement de leur critique par le philosophe du XXe siècle, Quine. Le deuxième type d'élément, c'est ce que j'appellerais tout simplement une règle. Une règle, qu'est-ce que c'est? Le plus simple est de prendre la forme syntaxique. Une règle, je dirais, c'est une prescription. Hein, c'est ce que Kant appelle l'impératif catégorique, c'est ce qu'il y a dans le code civil, c'est ce qu'il y a dans la morale, c'est ce qu'il y a dans bien des grammaires. Et une règle se justifie par son rapport à d'autres règles, ou par la constatation qu'elle a des effets. Ceci dit, encore une fois, la règle ne se justifie pas par rapport à du réel. C'est nos activités qui ont pour objectif de se conformer à la règle. Ce n'est pas la règle qui doit se conformer aux règles. Alors, d'une certaine façon, il y a un rapport entre la règle et le réel, mais qui n'est pas celui du théorème ou celui d'autres éléments comme la loi ou le fait sur lesquels je reviendrai. On peut justifier les règles par d'autres règles. Les règles se déduisent, peuvent être déduites les unes des autres, bien entendu. On peut se poser la question de savoir quel est le fondement des règles. Quelle est la règle ou l'ensemble de règles d'où toutes les règles se pourraient déduire? C'est le problème des logiques déontiques et c'est le problème, je dirais, des recherches des fondements de nos activités politiques, juridiques, morales. Et les philosophes, qui a constitué une grande partie de la réflexion sur les sciences humaines, ont longtemps essayé de trouver le principe d'où déduire toutes les règles. Alors, il y a le problème très simple, qui consiste à dire, mais il suffit de regarder. Il y a quelque part un fait qui explique la règle. Par exemple, la propriété. Pourquoi ne pas comprendre qu'il y a derrière le geste d'appropriation, le fait que celui qui est le plus fort, eh bien, approprie et chasse les autres. Par conséquent, les règles, dans leur systématicité, s'appuieraient sur un certain nombre de faits. On pourrait passer du fait au droit. C'est quelque chose qui a été éminemment critiqué Parce que d'une part, lorsque nous raisonnons de façon normative, s'il n'y a pas de prémisse normative, nous ne pouvons pas introduire la norme dans la conclusion. C'est une des règles fondamentales de la logique déontique qui, en cela, se rapproche de la logique modale. Et puis, parce que nous avons la capacité d'argumenter, comme le fait Rousseau, dans le chapitre 3 du livre 1 du Contrat social, où il conteste l'idée du droit du plus fort, en disant qu'en quelque sorte, on ne parle de droit à ce propos que par abus de langage, car s'il y a le fait du plus fort qui est à la base de notre système juridique et de notre système politique, eh bien, il n'y a pas besoin d'autre fondement. Donc c'est superfétatoire. Mais, du fait, on ne saurait passer au droit si, justement, on ne transforme le fait de la propriété en légitimation, c'est-à-dire si, finalement, on n'introduit pas le droit. On aurait la possibilité d'imaginer qu'il y a dans la construction de la machinerie intellectuelle humaine des principes innés, par exemple la répugnance à l'inceste, par exemple la répugnance à voir souffrir ou tuer, qui nous permettrait d'expliciter les sources qui seraient en quelque sorte biologiques du droit. De nombreux philosophes, en particulier au XVIIIe siècle, sont ainsi allés chercher dans la nature de ce qui nous constitue comme humanité les fondements de nos comportements moraux et sociaux. La sociobiologie de Wilson procède ainsi. Mais cela laisse supposer qu'il y a une universalité des principes et que, par conséquent, il n'y a pas de relativité historique, il n'y a pas de constitution d'un ordre des faits qui soit, d'une certaine façon, séparé de la nature. Alors, il y a d'autres possibilités plus sophistiquées. Celle qui est sans doute la plus remarquable dans toute l'histoire est celle de Kant. Kant, fin du XVIIIe siècle, se pose la question canonique de savoir quel peut être le fondement de notre conduite morale. Pour que ce soit un fondement, il faut que ce soit universel. Et là, il a une grande astuce théorique. Il dit, mais dans le fond, pour trouver un principe universel, il suffit de faire de l'universalité le principe lui-même. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir poser que la première règle, méta-règle, c'est de faire de notre conduite quelque chose d'universel. Je reviendrai sur ces problèmes qui sont cruciaux pour la définition des sciences humaines, je dirais, qui constituent en quelque sorte le problème philosophique de base de ces disciplines. Alors, il y a d'autres types de propositions. Il y a celles que j'appelle les faits. Celles que j'appelle les faits, c'est quoi? Ce sont des propositions singulières. Par exemple, Napoléon a perdu la bataille de Waterloo. Ou Crick et Watson ont inventé la structure hélicoïdale de l'ADN. Ce sont des faits en ce sens que cela désigne des singularités, c'est-à-dire des éléments qui n'ont lieu qu'une fois dans le monde, que nous pouvons observer. Nous pouvons les observer, mais nous les identifions, bien entendu, grâce à un langage abstrait à des termes théoriques. À part les noms propres, il n'y a dans notre langage rien qui constitue des références directes à de la facticité. Nous construisons la représentation de la facticité grâce à des propriétés linguistiques très particulières, hein, ce que le linguiste Émile Benveniste appelait l'appareil formel de l'énonciation, les déictiques, les pronoms, la détermination, etc. Alors, les faits, les propositions que nous appelons ainsi, eh bien, ils concernent effectivement des représentations qui peuvent être dites vraies ou fausses. Si je dis que Napoléon n'était pas à Waterloo, eh bien, je suis dans l'erreur. Alors, comment montrer que je suis dans l'erreur? Bon, exhiber les faits. Quand les faits ne sont pas présents comme ça devant nous, eh bien, nous recourons à des témoignages, nous recourons à des recoupements, à des éléments de plausibilité. Il y a donc une discussion possible par rapport aux propositions que sont les faits et à leur valeur de vérité. C'est ce qui les oppose, je dirais, aux théorèmes et aux règles. Il y a enfin un quatrième type de proposition, c'est celle que j'appelle les lois. Vous vous souvenez, lorsque je discutais de la conception aristotélicienne de la science, je disais que la science était constituée de propositions universel et nécessaire. En fait, c'est ce que nous appelons des lois. Les lois, ce sont des propositions universelles, donc qui valent en tout temps, en tout lieu, pour tous les objets qui tombent sous les catégories qui servent à construire la loi. Alors, il se trouve que bon nombre de nos lois peuvent représenter sous forme mathématique des fonctions analytiques de variables réelles, comme la loi de chute des corps. L'espace est une fonction de la moitié du carré des temps multiplié par une certaine constante. Mais bon, nous pouvons formuler des lois dans notre langage quotidien. Tous les vivants sont soumis à la naissance et à la mort. Ceci dit, et ceci est une loi. La particularité des lois, c'est bien entendu d'être confronté, lorsque nous discutons de leur vérité, à la réalité extérieure. Ceci dit, il faut faire extrêmement attention. Il ne suffit pas de trouver des cas qui vérifient la loi pour qu'une loi soit confirmée. C'est une remarque qu'a faite le philosophe anglais Karl Popper. En effet, une loi est universelle, donc théoriquement, elle est ouverte à l'infinité des cas possibles. Et cette infinité, jamais je ne pourrais la parcourir. Ceci dit, ce qui a valeur probante dans le cas des propositions universelles, c'est non pas la confirmation, mais la réfutation. Parce que dans le fond, il me suffit d'un seul cas contraire pour invalider une loi. D'où l'idée, dans le fond, que ce que l'on cherche face à un ensemble de lois que nous présupposons, c'est de savoir si elles sont réfutables ou pas. Alors ce système est effectivement une ébauche simplifiée de la façon dont fonctionnons dans la construction de nos représentations, et Il est clair que parfois, nous ne savons guère tout à fait où se situe la frontière entre un théorème, une loi, entre une loi et un fait, voire parfois entre une règle et les faits. Mais cela n'empêche que nous avons des pôles parfaitement identifiables qui nous permettent de faire une classification des disciplines. En effet, au théorème correspond l'ensemble des disciplines que nous appelons des disciplines formelles. Alors, les mathématiques, la logique en sont les éléments les plus importants. Alors, pendant d'ailleurs très longtemps, on se posait la question de savoir s'il s'agissait de science au sens de représentation de quelque chose d'extérieur. Mais disons que nous avons effectivement les disciplines formelles. Aux règles correspondent les disciplines normatives. Aux lois correspondent les disciplines nomologiques. Et enfin, aux faits correspondent les disciplines historiques. Car tel est effectivement le sens même du concept d'histoire, c'est ce rapport aux faits. Je dirais d'ailleurs que, à l'époque moderne, c'est-à-dire lorsque l'on a pris pour titre de la science la physique mathématique, cela a constitué un problème pour savoir où se situe la place de l'histoire. Puisque l'histoire s'occupe de faits, puisque la discipline qui sert de prototype à la science est de type nomologique, la conclusion s'imposait directement d'exclure tout ce qui concerne l'histoire des disciplines nomologiques et donc de la science. Ça a été la même chose pour les disciplines normatives. Quand bien même on ne se posait guère la question de distinguer entre ce qui serait une approche normative, c'est-à-dire la formulation de règles, et une approche descriptive, c'est-à-dire qui concernerait la représentation et la reconnaissance des règles. Je crois que les sciences humaines ont toutes affaire à des objets qui sont régulés par des normes. Elles sont ontologiquement normatives parce que nos conduites, parce que la façon dont se construisent les sociétés, tout cela repose sur des systèmes d'obligations. Et je dirais que l'essence même de la vie humaine et de la culture se trouve enserrée dans un réseau complexe de normes qui lui donne existence. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait toujours à se proposer simplement de fixer des normes. On peut se proposer de les étudier, de les comparer, de voir leurs conséquences et leurs inconséquences. Nous pouvons suivre des normes contradictoires. Donc je dirais que d'une certaine façon, les sciences humaines sont ontologiquement normatives. Elles ont aussi affaire avec l'histoire. Elles ont affaire avec l'histoire. Que veux-je dire par là? Eh bien, nos sciences nomologiques, disons en gros les sciences de la nature, présupposent en quelque sorte la constance des phénomènes, leur identité en tout temps et en tout lieu. C'est au reste cette idée qu'il faut voir sous-jacente à la conception spinoziste de la substance. Le monde est substance, ça veut dire qu'il a justement cette compacticité qui est en quelque sorte l'éternité des processus qui ont lieu et se réalisent dans le temps. Il n'en va pas de même du domaine des sciences de l'homme. Pourquoi? Mais parce que justement, ce qui fait ce domaine, ce qui l'en sert aussi dans la normativité, c'est que émergent à un moment des complexes qui n'existaient pas avant. Prenez l'État-nation, ce qui va constituer notamment les monarchies absolues qui se construisent à partir de la Renaissance en Europe. Ça n'aurait pas de sens de parler d'État-nation à propos des Grecs, voire à propos d'une tribu qui fonctionne sur le mode oral dans un environnement extrêmement localisé. Donc, l'État-nation apparaît à un moment. C'est-à-dire que c'est un fait, c'est un phénomène historique. Je dirais que d'une certaine façon, ce à quoi a affaire la culture, ce à quoi ont affaire les sciences humaines, c'est le domaine de l'histoire. C'est le domaine de l'historicité. Alors, on aurait peut-être tort aujourd'hui où la cosmologie a pris une envergure incomparable, d'opposer totalement par là les sciences humaines et les sciences de la nature. Il y a une part historique dans le domaine lui-même de la nature, puisque finalement nous sommes capables d'envisager une histoire du cosmos. Disons en tout état de choses que ces disciplines dont les objets sont historiques, on peut les appeler onto-historiques. Et je dirais qu'effectivement, les sciences humaines ont un domaine onto-historique. Ça veut dire qu'il s'agit de la constitution de processus qui ne sont pas déterminés par des substrats physiques sous-jacents, qui se définissent par des séquences temporelles irréversibles au cours desquelles apparaissent de nouveaux éléments. D'une certaine façon, je dirais, oui, il y a l'ensemble des phénomènes physiques qui relèvent de lois, les phénomènes biologiques aussi relèvent de lois, mais nous sommes obligés de recourir à de l'histoire, c'est ce que nous appelons l'évolution. Les phénomènes de l'esprit ont aussi leur autonomie, je dirais leur étage dans la hiérarchie des êtres, qui fait que nous ne pouvons pas réduire un étage à l'étage inférieur, et que si nous voulons véritablement concevoir l'objet des sciences humaines, nous sommes obligés de recourir à l'histoire. Ça ne veut pas dire que nous devons, dans le domaine des sciences humaines, recourir nécessairement toujours à des explications historiques. Tout le courant de pensée que l'on voit se développer à partir des années 60 du XXe siècle, auquel on a donné le nom de structuralisme, eh bien, pense que les phénomènes humains relèvent de quelque chose qui est de l'ordre du structurel, qui fonctionne en quelque sorte nomologique. Par exemple, les structures de la parenté correspondent à des modèles mathématiques, et pour expliquer pourquoi il y a tel terme de parenté constitué de certaines façons, il faut se référer, comme l'a montré entre autres Lévi-Strauss, à une structuration. Ceci dit, on aurait tort de considérer que là où il y a une opposition explicative, c'est-à-dire là où nous trouvons la nécessité de choisir entre structure et histoire, il faut en conclure que l'histoire et les structures sont incompatibles. Il faut bien que les structures naissent, se développent, disparaissent. On veut dire simplement qu'il y a des choses que l'histoire n'explique pas sans recourir à des éléments formels plus généraux. Alors, c'est là-dessus que vient se greffer effectivement une querelle épistémologique extrêmement importante entre, je dirais, expliquer et comprendre, et qui concerne plus spécialement le domaine d'objet des sciences humaines. Alors l'opposition entre expliquer et comprendre se conçoit, si on se réfère à ce que nous disions au début de cet exposé, sur la nécessité de recourir à la machinerie intellectuelle ou à la signification dans le domaine des sciences humaines. Dans le domaine des sciences de la nature, une explication, c'est soit l'exhibition d'un réseau de causalité, soit, plus simplement, la construction d'un système de lois. Et c'est ça que l'on appelle expliquer. Il est clair que dans le domaine des sciences humaines, ça ne marche pas comme ça. Prenez par exemple un match de foot. Vous pouvez vous amuser à décrire ce match de foot comme le déplacement dans l'espace de corps en fonction des lois de la physique. Oui, mais vous n'aurez pas devant vous un match de foot. Pour savoir que c'est un match de foot, il faut connaître les règles, savoir comment on s'y conforme et ce qui constitue une déviation par rapport aux règles. Il y a dans le domaine des sciences humaines l'introduction d'un élément, ben justement, qui a rapport à la signification et que nous appelons la compréhension. Ce n'est cependant pas tout à fait aussi simple que cela. Pourquoi? Parce que se constituent des grandes régulations qui, semble-t-il, n'ont rien à voir avec la volonté des individus, qui semblent en quelque sorte autorégulées. C'est le cas notamment dans l'économie. Nous sommes capables de relier la quantité de l'emploi avec la quantité de l'offre. La question se pose effectivement comment on agit sur l'un ou sur l'autre. Nous pensons qu'il y a des choses qui s'autorégulent d'elles-mêmes. C'est le cas, par exemple, du marché où finalement se trouvent construit cet équilibre dont l'indice est un niveau des prix. On a utilisé depuis Adam Smith, c'est-à-dire dans le fond tournant du 18e et du 19e siècle, l'idée qu'il y avait une main invisible. Alors, l'idée de la main invisible, c'est quoi? C'est l'idée que dans le domaine des activités humaines, se construit une structure d'ordre qui se trouve indépendant des sujets qui sont plongés dans le milieu où règne cette structure d'ordre. Alors, la tentation est grande de faire de ce monde qui a l'opacité, en quelque sorte, du monde naturel, qui a ses exigences qui s'apparente à la nécessité du monde naturel, le véritable objet des sciences sociales. D'une certaine façon, c'est ce que disent les structuralistes lorsqu'ils avancent que les sciences humaines n'ont pas pour objet l'homme. Il est incontestable, parce que nous le vérifions, parce que nous construisons par des protocoles d'expérience, de vérification, que ce niveau, en quelque sorte automatique et mécanique, existe. De même que, dans le fond, le mouvement de l'histoire qui affecte une société ne résulte certainement pas du projet individuel, fut-il celui d'un homme providentiel. C'est sur ces points qu'on réfléchissait déjà au XIXe siècle. Et je dirais en particulier Hegel. Prenez la philosophie du droit de Hegel. Ce qu'il essaye de montrer, c'est que la sphère de la subjectivité se trouve aliénée lorsque nous avons rapport à autrui. C'est-à-dire que simplement la propriété, ce n'est pas l'acte d'appropriation de ma volonté. C'est le fait qu'elle soit reconnue par d'autres hommes et donc qu'elle existe dans l'extériorité d'un objet. C'est ça, ce processus d'aliénation, ou plutôt d'extranéation, qui constitue la sphère de la culture. Alors, la tentation est grande de faire de cette sphère, donc celle des principales sciences humaines, quelque chose d'autonome qu'on peut étudier en soi et pour soi. Et d'une certaine façon, ce mouvement d'autonomisation nous permet d'avancer dans le domaine de la reconnaissance et de la compréhension des phénomènes. Comme dirait Durkheim au début du XXe siècle, il faut en quelque sorte considérer les faits sociaux comme des choses et considérer les rapports qu'ils ont entre eux sans se préoccuper de leur origine et encore moins des volontés individuelles. Je veux dire que c'est très intéressant de savoir pourquoi Pierre ou Paul s'est suicidé. Mais il est beaucoup plus intéressant de voir comment le suicide existe dans une société et quel rapport il a avec différents facteurs, la religion, l'époque de l'année, les fluctuations financières, etc. Alors, au niveau épistémologique, on peut faire comme si. Il est clair que pour les philosophes, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup d'entre eux ont du mal à se passer de la subjectivité. Par exemple, Sartre, dans la critique de la raison dialectique, essaye d'expliquer comment le sujet est toujours à l'origine de tout, mais comment il s'aliène dans son rapport à autrui pour constituer des ordres de fait, justement, ce qu'il appelle le pratico-inerte, et qui correspond aux structures ou aux éléments que l'on avait identifiés comme étant l'œuvre de la main invisible. En tout état de cause, on voit que dans le domaine des sciences humaines, contrairement au domaine nomologique des sciences de la nature, il n'y a pas de loi qui soit les fonctions du temps et qui nous permettent la prévision. Certes, nous pouvons reconstruire des explications et du coup faire des rétrodictions, mais il n'y a pas de loi de l'histoire. De la même façon, les domaines des sciences humaines obéissent aux lois générales des espaces formels. Je peux très bien concevoir qu'il y a de l'aléatoire qui règle aussi bien la façon dont se répartissent les billes d'une poignée que je jette, ou la façon dont va évoluer les éléments atomiques d'une foule au cours d'une panique. Bien sûr, nous ne pouvons échapper aux lois formelles. Il n'empêche que dans le domaine des sciences humaines, il y a aussi une considération à prendre en compte, c'est le propre et l'impropre en matière d'explication. Et il y a une seule question. Si je décris une langue comme un système informatif qui se trouve obéir aux seules lois de mathématiques de l'information, est-ce que je décrirais en quoi une langue diffère de tout autre système d'information? Par conséquent, nous avons toujours à rechercher, en termes d'explication, ce qui relève du propre et ce qui nous permet de définir en quoi les phénomènes qui nous intéressent sont éminemment spécifiques.